Moi, je me rappelle d'un passage, en fait, dans IDSM. C'est un des premiers livres que j'ai lu de toi. Puis ça m'avait vraiment frappé sur justement cette phrase-là qui dit que le seul problème et la seule ambition de l'artiste, de l'intellectuel, j'imagine qu'on peut l'appliquer à l'écrivain aussi, devrait être cette pacification du monde, cette abolition de la violence grande et petite qui naît immanquablement quand l'être se voit, se croit séparé du monde. Puis aussi, quand tu développes, c'est sur le fait que ben, l'art, la littérature peut sauver la vie, peut avoir comme but de finalement de sauver la vie. C'est toute cette théorie-là. Moi, ça m'intéresse, ça m'interpelle au plus haut point. Et j'imagine que tout le monde ici a eu un jour lu un livre qui lui a sauvé la vie, ou en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Puis, ben, je me demande comment, après avoir réfléchi, après tant d'années, après avoir enseigné la théorie, la pratique aussi, comment, dans ta pratique, tu arrives à exercer dans le fond, est-ce que tu as toujours un peu ça en tête? Est-ce que tu crois que tu y arrives? Est-ce
J'y
que
arrive pas, je cherche ça,
tu te
mais j'y arrive
doutes
pas.
ou...
J'y arrive pas. J'aimerais toujours. Ben, un autre de mes problèmes, c'est pas c'est de penser moins et de ressentir plus. C'est mon problème, c'est que je pense tout le temps. On est tout le temps pris avec un problème. Quand on étudie l'œuvre d'un auteur, on se rend compte qu'un auteur, il est pris avec un problème, puis il essaie de le résoudre. C'est ce que Thoreau appelle, j'essaie souvent, gruger son os. Hein? Thoreau dit, tout être humain, et évidemment tout écrivain, naît avec un problème. Il dit pas un problème, il dit avec un os. Sa tâche, c'est de trouver son os, c'est de le gruger, de l'enterrer, de le déterrer, puis de le gruger jusqu'à temps que l'os devienne lui-même. Et moi, mon os, c'est sûr que c'est ça. Mon os, c'est deux choses, c'est le temps, puis le fait que dès qu'on dit le temps, tout de suite, on est dans la pensée. Le seul objet réel de la pensée, c'est le temps. Il n'y a pas d'autre objet. La pensée est aux prises avec ça tout le temps. C'est le cas de le dire, c'est son audace. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, ce serait de temps en temps de me débarrasser de cet os-là, puis d'être capable de regarder par la fenêtre, d'expliquer un sapin, d'une épinette, de dire après le matin vient le midi, puis après le midi vient le soir, et puis de laisser couler les choses sans toujours les ressaisir par la pensée. Par contre, je pense que parfois, en avouant ma faiblesse à me rattacher au monde concret, réel, comme je voudrais le faire, en tendant vers cela, je pense que je réussis un peu à combattre la violence qui vient de la dissociation. C'est une de mes grandes idées, je reviens constamment, je pense, puis je le laisse pas mon idée, c'est parce que je l'apprends d'autres, personne n'invente rien. C'est l'idée de Simone Weil et d'autres. Le mal surgit dès qu'on brise le lien avec le monde sensible. Donc, un être qui pense trop va fatalement être dans la violence. Lors d'une vie antérieure en Inde, j'avais retenu cette phrase de la Bhagavad Gita, « Si tu veux combattre la violence, arrête de penser. » Ça m'a toujours frappé à quel point la violence naît d'une abstraction. Quand on regarde des actes de violence à la télé ou dans un livre, ou même parfois, hélas, près de nous, on se dit, comment est-ce que c'est possible de commettre un tel acte à l'égard d'un animal, d'un enfant, d'un être humain, ou même d'un arbre? Sauf si le contact a été perdu avec la réalité sensible que c'est un être humain, que c'est un animal, que c'est quelque chose de vivant, etc. C'est pour ça que dans la mécanique même de la cruauté, on voit tout ça dans les récits de la Shoah, et pour que le tortionnaire réussisse à faire sa job de tortionnaire, il faut que tu tues l'idée que tu as un humain en face de toi. Parce que tu ne peux pas exercer de la violence aussi longtemps que tu perçois que ce qui est devant toi est un être vivant. C'est impossible. La cruauté à l'égard d'un animal, ça se peut pas, sauf si tu as décidé que cet animal n'est pas en vie, que c'est un toutou, que c'est une peluche et tout, etc. Donc, moi, je pense que la littérature, ce qu'elle fait, en tout cas, moi, c'est ça que j'essaie de faire, c'est essayer de voir en moi à quel moment se fait cette rupture avec le monde sensible, et d'essayer de recréer ce lien qui est très, très, qui m'est pas donné. Ça t'est plus facile, je vois Stéphanie qui est là. Je suis jaloux là, quand les gens à pleine page le réalisent. Il aurait donné. Moi, je dois me bagarrer comme un fou pour attraper un petit moment de description qui va faire sentir telle chose ou faire apparaître telle lumière et tout. Mais.
Ah, je me bagarre aussi. Hein?
Tu te bagarres, mais oui, tu oui. réussis. Mais en même temps, on se dit, mais il faut accepter son os, c'est ça, etc. C'est pour ça que, aussi, il y a des périodes dans la vie où on aime plus telle chose ou telle autre, mais c'est certain que j'ai eu une période où j'adorais la littérature latino-américaine, parce que là, plus flyé que ça, tu meurs, là, tu sais, c'est pas possible. Puis à un moment donné, ça a rempli sa fonction. Comme mes deux premiers livres sont illisibles pour la plupart des gens parce que c'est trop fou. Imaginez, c'est la chose la plus facile au monde. C'est comme rêver. Tout le monde rêve. Fait que tu apprends à rêver éveillé. C'est très facile. Fait que quand je vois aujourd'hui, à l'université, puis un peu partout, puis les gens disent « Ah, ça c'est un vrai écrivain parce qu'il raconte pas sa vie, il a beaucoup d'imagination. » Moi, je ris dans ma barbe. Ce que j'ai fait de plus facile, de plus moins bon dans mon œuvre, ça a été d'imaginer, sans fumer rien, là, tu as juste à t'asseoir, tout, ça part. Parce que c'est la chose la plus facile. La chose la plus difficile, c'est de contraindre cette imagination et de voir le réel, comme dit Kafka, hein, la phrase que je cite toujours de Kafka, parce qu'il vivait à l'époque des expressionnistes, les peintres qui faisaient des maisons qui volent avec des vaches, avec des violons dans la bouche et tout, etc. Lui, ça ne l'intéressait pas trop. Fait qu'on lui demande pourquoi, parce qu'il dit, écoute, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est pas que les maisons volent, c'est que les maisons, elles volent pas. Waouh! Le réel, c'est ce que le plus flyé.
Le réel, c'est est-ce que c'est faire une lecture du monde? Est-ce que c'est rendre une lecture du monde? Est-ce qu'on peut, on pourrait dire ça autrement?
Oui, mais le lire, oui. Mais pour le lire, ça veut dire qu'il faut entrer en contact avec lui, il faut le traduire, il faut se laisser imbiber et tout. Mais c'est sûr que, par contre, même si je doute toujours que la littérature soit le plus court chemin pour arriver au réel, je me dis, ben quand tu es écrivain, t'as pas le choix. Moi, je pense qu'on choisit pas d'être écrivain, comme j'ai déjà écrit. On peut choisir de ne pas écrire, même si on est écrivain, mais on choisit pas d'être écrivain. C'est pas... Si j'avais eu à choisir, j'aurais fait autre chose. Moi, j'aurais aimé construire une maison. Si quelqu'un dit qu'il a construit sa maison, il l'a rénovée, je suis à genoux devant lui. Là. Tu sais, c'est comme... Il a fait quelque chose, vraiment, avec ses mains et tout. Il a compris quelque chose qu'il peut assembler dans l'espace, puis ça devient un objet. C'est tout ça extraordinaire. Mais c'est pas ce qui m'a été donné, c'est tout. Alors, je suis obligé de vivre avec ça. Donc, par du même coup, c'est sûr que...
Moi aussi, je dis ça à mes vieilles tantes. Quand je leur expliquais que j'étais au doctorat, que j'ai interrompu ou quoi, ou que j'étais dans la recherche, l'écriture, je leur dis, tu sais, c'est là-dedans que je suis bonne. Là. Je veux dire, je fais ça parce que tu sais, j'en retire une certaine satisfaction. Puis c'est pas que c'est facile, mais pour vulgariser auprès d'elles, ben c'est comme ça que je leur dis aussi.
Bien, c'est sûr. Mais en même temps, j'aime beaucoup l'expression parce que je pense que, pas juste des écrivains, des vrais lecteurs, tout le monde, un jour ou l'autre, peut dire qu'un livre lui a sauvé la vie. Ou en tout cas, l'a soutenu dans des périodes difficiles, lui a révélé des choses. Enfin, le premier livre qui a eu un choc sur moi, parce que j'en parle presque jamais, sauf dans un livre, pas parce que j'en ai honte, mais c'est parce que je ne saurais pas dire autre chose que ce que je vais dire. J'ai 15 ans, je lis « Pieds nus dans l'eau » de Félix Leclerc. Vous l'avez lu. Félix Leclerc, il a été à la tuque. Il raconte son enfance autour de la tuque, dans les forêts autour de la tuque. Moi, je lis ça, je suis né dans le bois, encore plus creux que lui, au nord de la tuque. Et là, je lis « Le petit gars, il va à la pêche, il saute sur les rochers. Hey, c'est ma propre vie. » Et là, c'était le premier choc. Je me suis dit « Hey, ma propre vie, c'est une histoire. Ma propre vie est un roman. » Ça, c'était le premier choc. Ça redoublait ma vie, puis ça me la redonnait avec quelque chose, peut-être un peu de magnifié, mais juste de voir comme une distance, le dédoublement, hein, que tous les écrivains connaissent bien. Tu ne peux pas écrire si tu ne te dédoubles pas. Alors là, c'est comme en lisant le livre de Félix Leclerc, je voyais ma propre vie, mais c'était ma vie, mais c'était pas ma vie. Comme dans un rêve. Tu sais, quand on rêve, on dit, j'ai rêvé à ma mère cette nuit, mais c'était pas ma mère. Alors, je lisais le livre de Félix, c'était ma vie, mais c'était pas ma vie. Alors, ça, c'était un premier choc. Ça m'a pas sauvé la vie, mais pour le meilleur et pour le pire, ça m'a mis sur le pied de la littérature. Mais des livres qui m'ont sauvé la vie, c'est les livres de Virginia Woolf, c'est très, très évident. C'est pour ça que quand les gens disent, pauvre femme passait son temps à essayer de se suicider, peut-être, mais elle a vécu jusqu'à 59 ans, puis moi, elle m'a sauvé la vie, parce que chaque fois, j'étais très déprimé. Qui n'a pas été déprimé dans sa vie, ou n'a pas traversé une période difficile? Je prenais une page de Virginia Woolf, et puis là, tout à coup, il y avait comme une sorte d'humour, qui c'est comme si une immense mère universelle disait, inquiète-toi pas, mon petit, c'est tout le temps comme ça. On souffre moins, et tout, etc. Et je ne pouvais pas m'en passer. Ça me prenait ma dose de Virginia Woolf à chaque soir avant de m'endormir pour dire « Calme-toi, petit, c'est pas trop grave, la vie va continuer. » Crois-moi, je suis passé par là. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il y a des livres comme ça qui sont comme des êtres. Pour moi, il y a 3-4 auteurs dans ma vie, elle, puis Taranke, maintenant, Brock, il m'accompagne tout le temps. Maintenant, c'est Gabriel Leroy que j'ai boudé pendant tant d'années, qui se retrouve même dans le prochain livre que je suis en train d'écrire et tout. Et il m'accompagne. Il m'accompagne, je ne dirais pas autant que des êtres vivants, mais peut-être en quelque sorte mieux. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent, peut-être ce que tu appelles la quintessence, ils incarnent, au fond, la vie telle que j'aimerais la vivre, telle que je la sens le plus purement en moi, quelque chose comme ça. Donc, oui, je suis très, très suspect à l'égard de la littérature. En même temps, comme toi, je reconnais que je ne peux pas m'en passer. Pas que je lise autant que toi, probablement, mais que je ne peux pas m'en passer. Parce que les livres qui m'ont nourri ou qui m'ont aidé, je passe mon temps à les relire, Tu sais, tu as lu mes livres. Je parle toujours des mêmes auteurs. Culture zéro, mais les 10 auteurs que j'ai lus, je les ai lus.
C'est ça.
On est rendu où dans le temps, ouais?
J'ai envie de vous relancer sur une chose avant de passer à l'autre partie. C'est, dans le fond, vous écoutez depuis tantôt parler de réalité.
Ouais.
Chacun a votre point de vue. Et j'ai l'impression que, dans le fond, vous dites, si j'ai vraiment la même chose, dans la même chose, je vais m'exprimer, je me fais un peu l'avocat du diable. Pour Mylène, elle parle des choses concrètes, mais la façon de parler des choses concrètes, de ce que j'ai lu d'elle et de ce que j'ai entendu, c'est pour, en même temps, essayer de dénouer ce qui est de l'ordre du non-concret. L'abstrait.
Oui.
Et toi, Yvon, j'ai l'impression que tu parles beaucoup de l'abstrait, mais pour tomber dans la réalité, expliquer ce lien-là qui t'unit, qui fait partie de la réalité. Alors, c'est comme si tu vois dans la chose concrète la quintessence de la réalité, c'est comme si Mylène parle de la chose concrète comme la quintessence de l'abstraction, mais tout ça fait partie de la réalité. Alors, j'ai l'impression, et j'ai envie de vous relancer là-dessus, que vous plongez les deux dans la réalité, mais les deux plongeons complètement différents, et vous retrouvez le milieu de la piscine.
C'est intéressant ce que tu dis. Mais moi, je reprendrai ce que tu viens de dire et je dirais ceci, par bon honneur. Quelqu'un qui parle toujours du concret et du réel, c'est parce qu'il ne l'a pas. C'est clair. Si je passe mon temps à mettre l'accent et à donner comme but ultime à la littérature la découverte du concret, la concrétude, le monde sensible et tout, c'est très évident, c'est parce que je ne l'ai pas naturellement. Si toi, tu mets plus l'accent facilement, on le voit, c'est parce qu'au fond, tu l'as au départ, ça.